enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Ce matin, nous allons continuer
sur
les obstacles à la foi. Nous sommes dans un texte, 1 Timothée chapitre 6, verset
12,
où Paul parle à Timothée et lui dit « Combat le bon combat de la foi ». Rappelez-vous que nous ne sommes pas là pour écouter un prédicateur. Mais nous sommes là pour écouter la puissante parole de Dieu qui change les vies. La parole doit être notre fondation. La parole, c'est celle qui change nos circonstances. Dans 1 Timothée 6, 12,
combat
le bon combat de la foi. Et nous avons remarqué que souvent, les chrétiens
combattent
un combat qui n'est pas le leur. Qu'ils se trompent de bataille. Qu'ils se retrouvent dans des choses que finalement Dieu n'a jamais voulu pour eux. Qu'ils se fatiguent très souvent dans la vie spirituelle pour rien du tout. Parce qu'ils ne combattent pas la bonne bataille. Une autre chose que nous avions remarqué avec ce verset, c'est qu'il y a évidemment des obstacles à notre foi. Et nous en avons remarqué plusieurs. Le premier, bien sûr, c'était le manque de connaissances sur notre nouvelle naissance. Je vous rappelle que Dieu vient habiter dans notre esprit et non pas dans notre âme, dans notre personnalité, quand nous recevons Christ comme sauveur personnel. Choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Et il est clair que dans notre esprit, nous avons tout pour réussir notre vie. Maintenant, il faut développer notre nature spirituelle. Apprendre à tenir notre corps en bride. Ensuite, le deuxième obstacle qu'on voit chez beaucoup de chrétiens, c'est le manque de connaissance de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est celle qui nous donne la foi. Celle qui nous stabilise en Christ, celle qui nous fait grandir. C'est notre nourriture. Et sans cette puissante parole de Dieu, nous ne pouvons pas avoir la foi, donc ne pas voir Dieu intervenir dans nos situations. Le troisième obstacle que nous avions vu, c'est le manque de compréhension de notre justice. Le fait d'être né de nouveau nous a mis dans une position de juste. Dieu nous voit comme si nous n'avions jamais péché. Nous avons un accès dans sa présence. Nous avons remarqué une chose, c'est que la Bible dit que soit on est juste en Christ, soit on est injuste en Christ, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas nous présenter devant Dieu. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument fondamental à comprendre, dans lequel nous devons apprendre à marcher. Nous avons vu que nous ne pouvons pas grandir dans la justice, mais c'est une position que Dieu nous donne. Cette justice étant de pouvoir nous présenter devant notre Père Céleste sans sentiment de condamnation ou d'infériorité. Nous avons remarqué que si nous péchons, c'est là où en tant que chrétien on se sent mal dans notre cœur, notre conscience nous reprend. Et je vous ai expliqué ce verset de 1 Jean 1:9, où Christ nous purifie et nous restaure dans notre justice. Notre justice nous permet de régner dans cette vie, de voir la puissance du royaume de Dieu en manifestation, ce qui ne peut pas être le cas à partir du moment où nous n'avons pas cette position en tant que juste, c'est-à-dire que nous sommes pécheurs quand nous ne sommes pas nés de nouveau. Ensuite, nous avions vu, bien sûr, notre droit légal à utiliser le nom de Jésus. Et ça, c'est absolument fondamental. Nous avons remarqué que Christ nous a donné son nom. nom qu'il a obtenu grâce à son œuvre. Je vous rappelle que quand vous invoquez le nom de Jésus, vous invoquez l'œuvre de Christ. Le nom de Jésus est attaché à son œuvre, à l'héritage, à ce qu'il nous a acquis. Et ce nom, Jésus nous l'a donné, nous a donné une procuration. Nous avons le droit d'utiliser le nom de Jésus, sachant que le propriétaire est parti au ciel et il a donné un pouvoir légal d'utiliser son nom, donc une procuration à son peuple. Et nous sommes le peuple de Dieu. Cette procuration nous permet de nous adresser au Père au nom de Jésus. Nous permet de guérir les gens au nom de Jésus. Nous permet de chasser les démons au nom de Jésus. Nous permet de tenir ferme contre toutes circonstances adverse au nom de Jésus. Alors, cinquième obstacle que l'on voit, c'est le manque d'action sur la parole de Dieu. Vous savez, la foi vient de la parole. Mais la foi est libérée comment? Quand nous parlons, oui, mais aussi et surtout quand nous agissons sur la parole. Et il y a beaucoup de chrétiens qui ont peur d'agir sur la parole. La foi, c'est agir sur la parole. C'est-à-dire que il y a des circonstances qui crient contre toi, des choses qui s'opposent dans ta vie, ou une vision que tu veux réaliser, que tu sais que Dieu veut cela pour toi, et tout est bloqué, et tu commences à agir sur la parole. Et il y a une puissance extraordinaire ici. Je vais vous expliquer ce principe ce matin. Jacques 2, 26 nous dit la chose suivante. Jacques 2 verset 26, il est dit: comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres ou les actions est morte. Alors ici, vraiment, la parole de Dieu nous explique un principe important. Nous savons que la foi vient de l'écoute de la parole de Dieu.
Qu'à
partir du moment où je médite la parole de Dieu, que je vois des oppositions par rapport à ce que la parole de Dieu dit, alors je peux utiliser la parole, et ayant reçu cette foi, et je peux voir mes circonstances changer,
et
il va falloir que j'agisse comme si cette parole était vraie. Dans les temps de crise, c'est là où c'est le plus difficile au départ d'apprendre à agir sur la parole de Dieu. Parce que vous savez, c'est très simple d'agir quand tout va bien. Par exemple, si tu n'es pas dans une crise financière, donner ta dîme, ça
ne
demande pas un grand effort de foi. Amen. Si
tu n'as
pas de problème financier, donner ta dîme, c'est très simple.
Maintenant,
ce qui va être plus difficile, c'est donner ta dîme, c'est-à-dire d'obéir au Seigneur lorsque tu es dans une crise financière. Et c'est là où Dieu nous attend au niveau de notre foi, éprouve notre foi.
Vous
vous ne pouvez jamais grandir dans la foi si vous attendez que tout aille bien pour agir sur la parole de Dieu.
Et
malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme ça. Ils attendent d'être guéris pour constater qu'ils sont guéris, pour déclarer qu'ils sont guéris. Et je vais vous dire une chose, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Un jour, il y avait une femme de Dieu qui s'appelle Catherine Kuhlmann, qui était au début de son ministère. C'était la première phase de son ministère, et elle commençait vraiment à voir Dieu agir puissamment dans sa vie.
Et
un jour, elle avait été dans une ville, elle avait quelqu'un qui organisait donc ses croisades d'évangélisation, enfin ses réunions d'évangélisation à l'époque. Cette femme a dit, donc Catherine Kuhlmann a dit à celui qui s'occupait de l'organisation, trouve-moi le meilleur endroit de la ville. Trouve-moi le meilleur piano de la ville. Et nous allons nous mettre là-bas. Avec ce piano. Et le manager, il est devenu tout bizarre. Parce qu'il a dit, mais ça va nous coûter une fortune. Et Catherine Kuhlmann lui a dit clairement. Lui a dit, agis comme si nous avions des millions de dollars. Et elle disait à cette époque, c'était il y a au moins 50 ans, pas loin de 50 ans cette histoire, son ministère devait avoir
5 dollars.
Et ça c'est la foi. C'est pas la présomption. Si Catherine Kuhlmann n'avait pas été dirigée par le Saint-Esprit ce jour-là, partout on aurait dit, une femme évangéliste est venue et a laissé 1000 ou 2000 dollars de dette derrière elle. Vous voyez la réputation à ce moment-là.
Non,
elle a loué le meilleur endroit parce qu'elle savait que Dieu la voulait à ce moment-là à faire ce qu'elle était en train de faire. Ils ont tenu leur série de réunions et c'était un succès total. Les gens se convertissaient et vraiment c'était super. Et elle a largement payé la salle. À tel point que quelques mois plus tard, elle voulait repartir dans une autre ville. Et les gens lui ont dit, pas question. Nous, on veut que tu restes ici. Et là, ils ont commencé à donner en masse et ils ont commencé à acquérir un bâtiment, etc., etc. C'est la foi. La foi va vous défier. La foi, ce n'est pas peser le pour et le contre. Et dire je vais faire ça ou ça. La foi c'est agir comme si la parole de Dieu est vraie, parce que de toute façon la parole de Dieu est vraie, mais c'est agir avec le résultat, non pas agir avec les circonstances. Beaucoup de chrétiens veulent voir les résultats de Dieu en agissant par rapport aux circonstances. Mon frère, ma soeur, si tu agis par rapport à tes circonstances, tu peux prier, tu peux faire ce que tu veux, ça ne marchera pas. Tu dois agir avec la vision du résultat. Et ça, c'est le problème que beaucoup de chrétiens ont. Ils veulent absolument voir le résultat de Dieu avec des façons de penser humaines. Croyez-moi, si vous n'avez pas la foi, vous pouvez faire une jolie confession, mais le jour où vous êtes confronté très durement à vos circonstances, alors qu'est-ce qui va se passer? Vous allez choisir entre vos circonstances et la parole de Dieu, et vous allez obligatoirement aller du côté de vos circonstances qui vont vous vaincre. Ça, c'est tout à fait classique. Je vais vous donner un exemple à propos du salut des gens. Vous savez, souvent on prie pour des personnes, on leur annonce l'évangile, on leur dit voilà, tu dois te donner à Jésus, Jésus t'aime, et on leur explique de long en large et en travers. Ça peut être vrai pour un conjoint ou une conjointe qui n'est pas sauvé, ça peut être vrai pour des enfants, ça peut être vrai pour des amis, etc. Et souvent ce que nous faisons, c'est que nous essayons d'agir à la place de Dieu. Vous savez, on ne peut sauver personne, il n'est pas possible de sauver quelqu'un. Par contre, tu sais que tu peux empêcher, entre guillemets, le salut de quelqu'un pendant un bon bout de temps. Comment ça? Là, le pasteur m'accuse. Non, je t'accuse pas, je vais t'expliquer quelque chose. Je vais t'expliquer quelque chose de très important pour toi. Quand tu as quelqu'un à qui tu as parlé de Jésus, tu connais très bien le message de l'évangile, que tu as essayé d'attirer à l'église, si cette personne n'est pas venue, tu peux tous les dimanches ou tous les jours lui dire viens à l'église, viens à l'église, viens à l'église, viens à l'église. essayer de la convaincre avec ta tête,
tu
n'auras pas de fruits. Tu n'auras pas de fruits. Ta part est de partager l'évangile aux autres. Ta part n'est pas de sauver les autres. Si tu cherches à sauver les autres, je vais te dire une chose, tu vas échouer parce que tu es en train d'essayer de faire l'œuvre de Dieu. Et bien des fois, nous bloquons les gens pour venir à Christ parce que nous essayons de remplir un rôle qui n'est pas le nôtre. Si tu pries pour que quelqu'un soit sauvé, alors qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois le voir dans le résultat. Tu dois le voir dans le résultat. Arrête d'abord de confesser des choses négatives sur cette personne. Parce que déjà, si tu continues à confesser négativement sur cette personne, tu prouves une chose, c'est que tu ne crois pas dans ta prière. Tu ne crois pas dans ta prière. Ensuite, si Dieu a parlé de Jésus suffisamment, laisse-le tranquille. Ne lui parle pas de Jésus encore. Ce n'est pas la peine. Il connaît le message de A jusqu'à Z. Quand on amène des gens au Seigneur, ils ont déjà entendu le message de l'évangile. Et d'ailleurs, souvent, il y a des gens qui ne veulent plus nous fréquenter à cause de ça. Ça vous est jamais arrivé? Des gens qui comment
est-ce
que je veux dire, il va me casser la tête avec son Jésus. C'est pas la bonne méthode. Ce n'est pas la bonne méthode. Vous savez, la personne, elle a tout entendu. Et pensez pas qu'à force de lui répéter le message de l'évangile, cette personne va se donner au Seigneur. Au contraire, vous risquez au bout d'un moment de créer, à force d'insister, de mal insister, un fossé relationnel entre vous et cette personne. Cette personne ne va plus vouloir vous fréquenter parce que vous mettez Jésus à toutes les sauces. Vous ne pouvez pas tenir une conversation avec cette personne sans lui dire que Jésus ceci, Jésus cela. Vous savez, l'inconverti, il a besoin d'entendre le message de l'évangile. Il a besoin de vos prières. Et il a besoin aussi que vous liiez les puissances sataniques pour que cette personne puisse commencer à voir clair dans sa vie. Et vous amènerez beaucoup plus de personnes au Seigneur en les voyant dans la foi déjà sauvés, plutôt qu'en essayant, à force de répéter, à force de leur bourrer la tête, de vouloir absolument les amener à Jésus. Vous ne pouvez pas sauver qui que ce soit. Allez, vous allez répéter après moi, je ne peux pas sauver qui que ce soit.
Je ne peux pas sauver qui que ce soit.
Et dis à ton voisin, tu ne peux pas sauver qui que ce soit.
Tu ne peux pas sauver qui que ce soit.
Amen.
Amen.
Mukirundi.
Hindukira neza umurabo wa muntu umubwira uti nta numwe ushobora gupfa warakijije. Musubiriramwo neza uti nta numwe ushobora gutsopfa warakijije.
Vous savez, c'est grave, mais on voit beaucoup de chrétiens. Ils sont là avec leurs histoires de fardeau là.
Usanga bari ngaho misi yose n'imitwara.
Ils sont graves avec ça. Mais il y a des gens, on a l'impression, on les regarde, on se dit, ah, toi, t'es plein de fardeaux.
Hein.
Je
ne
sais pas. Jésus a dit, mon fardeau est lourd. Oh, yeah. Il a dit, mon fardeau est léger. Est-ce que tu n'es pas en train de te charger de fardeaux dont tu te charges toi-même pour jouer les super spirituels? Non, moi la Bible me dit que être dans le Seigneur, c'est la joie, la paix, l'amour par le Saint-Esprit. C'est ça le royaume de Dieu. Amen. Et que quand l'adversité vient, tu fais une réelle comparaison entre un soi-disant fardeau que tu t'es mis sur le dos et réellement une attaque de l'ennemi. Mais apprends à faire la différence. Tellement de gens sont dans des trucs irréels. C'est grave. des combats qui n'existent pas, des trucs que des gens s'inventent. Moi je connais une sœur ici, super spirituelle. Ah, je ne sais pas combien d'heures elle prie par semaine, mais je pense qu'elle prie plus que ce qu'elle ne travaille. Mais on sent toujours, il y a, vous savez, comme quelque chose qui est sur elle, là, le fardeau.
Mais
c'est épouvantable de vivre comme ça. Là, je comprends que ces gens-là prient, Seigneur, reprends-moi.
Non, c'est
juste une blague. Mais il y a vraiment des gens, vous savez, ils disent, oh, je suis fatigué de la vie.
T'as
rencontré Jésus ?
Voilà,
il me semble que c'est à lui de porter tes fardeaux. Donc toi, il va falloir que tu apprennes à agir selon la parole de Dieu. Arrêtez de te charger de tout un tas de problèmes, de fardeaux, de machins, de bidules, de trucs qui finalement ne sont pas ton lot, ne sont pas ta responsabilité. Dieu ne t'a jamais demandé de combattre des batailles qui ne sont pas les tiennes. Regardez 1 Samuel 17, verset 47. Il y en a qui ont besoin de ça ce matin. Arrête de te mettre dans des trucs qui ne sont pas tes batailles.
1
Samuel
17,
verset
47.
Arrête de te mettre dans des batailles qui ne sont pas les tiennes. Arrête de jouer le super spirituel avec les gros fardeaux de 10 tonnes sur ta tête qui ne sont pas des fardeaux réels,
mais
ni plus ni moins des choses dans lesquelles tu te fais des illusions personnelles qui n'ont rien à voir avec un combat spirituel, mais qui sont le reflet que de pensées religieuses et qui t'empêche de t'épanouir en Christ. 1 Samuel 17, 47. Toute cette assemblée reconnaîtra que c'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve, car la bataille, la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains.
Ngo kandi ikoraniro ryose rimenye yuko Uhoraho adakirisha inkota canke icumu kuko intambara ari Uhoraho kandi niwe agira abagabure mu maboko yacu.
Vous savez, dans la foi il y a un repos.
Mu kwizera hari akaruhuko.
La foi, ce n'est pas une bataille continuelle dans laquelle tu t'épuises et dans laquelle tu ne vois pas d'issue. Ça, c'est l'espérance. Et rappelez-vous que l'espérance, c'est futur. L'espérance n'apporte rien. Ça n'apporte aucune réalité. Par contre, la foi amène la réalité, amène un changement. Et dans la foi, il y a un repos. Quand tu es dans la foi, tu n'es pas dans une bataille.
Où
t'es là en train d'être chargé avec tes fardeaux. La seule bataille que t'as amenée, c'est de rester sur la parole et d'agir comme si la parole est vraie, alors que tout ton entourage, toutes tes circonstances crient « Non, c'est faux !» Si tes circonstances crient c'est faux, ce n'est pas à toi d'être dans une bataille et un espèce de fardeau bizarre, mais tu dois simplement rester sur la parole, fermer tes pensées à tout ce qui va contraire à la parole, continuer à marcher comme si la parole était vraie et qu'elle était déjà accomplie pour toi. C'est alors que tu verras ta percée. Sinon, tu ne la verras pas. Sinon, tu resteras tel quel avec tes problèmes, tes difficultés. Tu resteras dans ton bourbier en train de t'embourber dans la boue. Tu n'arriveras pas à t'en sortir parce que tout le temps, tu marcheras à environné de tes pensées. Parce que tu t'en nourris. Parce que tu n'agis pas comme si la parole est vraie. Quand tu agis comme si la parole est vraie, et que tu vois tes mauvaises pensées t'assaillir et essayer de te tirer vers le bas, tu dis non, je n'accepte pas ces choses. Non, la parole de Dieu déclare telle chose. Envers et contre tout, je continuerai à marcher dans la parole jusqu'à temps de voir la réalité de la parole avec mes propres yeux. Rappelez-vous, c'est ce que Jésus a enseigné dans Marc 11. Ensuite, nous verrons le repos de la foi. Vous avez besoin d'une petite leçon là-dessus. Marc chapitre 11, versets 23 et 24. Il est dit, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute pas dans son cœur, mais qu'il croit ce qu'il dit, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Toi, tu dois simplement agir sur la parole comme si c'était déjà fait. N'essaye pas de faire accomplir les choses, d'aider Dieu. Tu ne peux pas aider Dieu. Dieu s'occupe de son business. La Bible nous dit qu'il est derrière sa parole pour l'accomplir. Toi, ce n'est pas à toi d'essayer de faire comme si Dieu agissait. Mais toi, ton rôle, c'est de pratiquer la parole. D'agir sur la parole comme si c'est une réalité. Pour vivre, en d'autres termes, vivre dans la réalité de la parole de Dieu. Fais œuvrer la parole en ta faveur. Agis. Fais ce qu'elle te demande de faire. N'essaye pas de te battre contre le diable. N'essaye pas de vaincre le diable. Le diable est déjà vaincu. Marche seulement dans la victoire. Quand tu es dans la victoire, tu es quelqu'un de joyeux. Si tu entends la bonne nouvelle que ton ennemi est vaincu, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas crier de joie, mais tu
ne
seras pas en train de dire, « Ah, frère, je porte le fardeau. » Ça c'est de l'incrédulité, ça c'est des blocages. Tu es en train de te bloquer toi-même. Si tu sais d'avance que tu as gagné, tu te réjouis et tu marches dans cette victoire. C'est tout ce que tu as à faire. Marche dans ta victoire. Ça c'est un principe du royaume de Dieu. C'est la loi de la foi. C'est pas toi qui essayes de t'auto-convaincre, c'est la parole de Dieu qui parle, qui te dit certaines choses et tu marches à la lumière de ce qu'elle te dit. Tu agis à la lumière de ce qu'elle dit. Donc tu n'essayes pas de vaincre, tu n'essayes pas de te bagarrer. Tu marches dans la foi, c'est-à-dire que tu marches dans le résultat. La foi, c'est agir dans le résultat. La foi, ce n'est pas se lamenter sur les problèmes. La foi, ce n'est pas méditer des choses négatives et essayer tant bien que mal de se sortir d'une situation avec le fameux « on verra, ça devrait bien se terminer ». Non, la foi n'a rien à voir avec ça. La Bible nous dit dans 1 Jean 4:4. Vous savez, il y a de puissantes paroles de victoire dans la parole de Dieu. Maintenant, il faut savoir se servir de cette arme qu'est la parole de Dieu. Il est dit à la deuxième partie du verset 4, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde, c'est-à-dire que l'ennemi, que Satan. Que les mauvaises circonstances. Si tu ne crois pas à cette parole, tu vas te retrouver par terre. Alors, tu pries.
Et
tu pries par terre parce que tu es par terre.
Tu pries
pas avec un esprit de victoire. Tu pries avec des mentalités de
défaite.
Celui qui est en toi, il est bien plus puissant que celui qui est dans le monde. Arrête de voir l'ennemi comme étant fort. Arrête de dire que tes circonstances sont trop fortes pour toi. Mais apprends à agir sur cette parole parce que c'est la puissance de Dieu. Quand tu commences à agir sur la parole, d'un seul coup, autour de toi, le monde de Dieu se met en action en ta faveur. Et tu ne peux pas t'imaginer tout ce qui est là autour de toi. Un prophète un jour, alors qu'il était assailli d'ennemis dans le naturel, a dit à son serviteur qui paniquait: oh, ceux qui sont avec nous sont bien plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Et il a dit au Seigneur: Seigneur, ouvre-lui les yeux. Et d'un seul coup, ce serviteur va voir une armée d'anges tout autour de lui. Ce prophète était un homme de Dieu. Il savait que ce n'était pas les circonstances sur lesquelles il devait compter et voir. Mais il savait une chose, c'est qu'il devait agir sur la parole. La parole de Dieu. Quand tu agis sur la parole de Dieu, le monde angélique, qui est bien plus puissant que le monde démoniaque, se pliera devant toi. C'est le privilège du royaume, mon frère. De nous-mêmes, faire plier l'ennemi, nous ne pouvons pas. Par contre, avec l'autorité qui nous a été donnée, avec la parole qui nous a été donnée, tu peux faire plier l'ennemi, tu peux le chasser de tes circonstances sans aucun problème. Si tu connais ce principe, maintenant si tu as peur, si tu veux porter le fardeau, tu ne t'en sortiras jamais. Tu seras toujours en train de paniquer à la moindre action mauvaise de celui pour qui tu as prié pour qu'il soit sauvé. Tu vas commencer à te dire: mais je prie et il ne se passe rien. Tu vas commencer à agir d'une manière négative. Non, si tu as remis quelqu'un au Seigneur, tu l'as remis une bonne fois pour toutes. Arrête de le reprendre. Il y a plein de gens qui sont comme ça: Seigneur, je te remets ma femme au Seigneur pour qu'elle soit sauvée. Et puis 5 minutes après, ils sortent de la prière.
Et,
oh Seigneur, j'ai oublié quelque chose, je vais reprendre ma femme.
Les
gens sont comme ça. Et ils se demandent pourquoi ça ne fonctionne pas. Mais c'est normal. C'est normal, tu violes une loi spirituelle. Si tu donnes ton mari, ta femme au Seigneur, tes enfants au Seigneur, tu les donnes au Seigneur. Ça devient le problème du Seigneur. Ça ne devient plus ton problème. Si
tu
es là en train de t'inquiéter à droite et à gauche, un problème, c'est toi le problème. L'inquiétude bloquera complètement ton action vis-à-vis de la parole de Dieu. Quelqu'un qui s'inquiète, c'est quelqu'un qui dort mal la nuit, c'est quelqu'un qui constamment a des pensées négatives, qui essaie de l'assaillir et de lui dire: non, ça ne pourra pas se passer comme ça, non, ça ne changera pas, non ceci, non cela. Et les gens, en fait, finalement essayent de remplir le rôle de Dieu. Et alors ils parlent encore à la personne, il dérange finalement la personne, et cette personne est bloquée. À cause de qui? À cause de qui? Le Seigneur. Vous savez, je vais vous dire quelque chose qui n'est pas gentil. Il y a beaucoup de chrétiens qui aident le diable pour empêcher Dieu d'agir. Il faut que je le répète, vous n'avez pas entendu ça. Il y a beaucoup de chrétiens qui aident beaucoup le diable pour empêcher Dieu d'agir. Si
tu
as envie d'être ce genre de personnage, moi pas vraiment. Finalement, souvent, nous laissons une porte ouverte à l'ennemi, justement pour qu'il puisse continuer à empêcher Dieu d'agir. La Bible nous dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Souvent, nous glorifions tellement l'ennemi par justement des actions qui vont contraire à la parole de Dieu. Et on se demande pourquoi Dieu n'intervient pas. Mais Dieu intervient selon ta foi. Dieu n'intervient pas selon seulement ta prière. Ta prière avec la foi.
Ça
marche ensemble. Si tu pries pour des situations et que tu agis d'une façon différente de ce que tu as prié,
du
résultat de ta prière, c'est toi qui bloques l'action divine. Donc ni plus ni moins, tu es en train de faire perdurer une situation. Vous savez, nous sommes souvent les clés qui débloquent nos situations. La Bible dit dans Hébreux.
Hébreux
chapitre 4, on parle du repos de Dieu, repos de la foi. Et ce passage nous parle des enfants d'Israël. Et les enfants d'Israël, quand ils étaient dans le désert, vous le savez, ils n'ont pas été dans le pays de Canaan. Ils ont eu de sérieux ennuis. À cause de quoi ? L'incrédulité. Ils étaient incapables de marcher selon le résultat de Dieu. Dieu leur disait, et leur a dit, je vais vous faire sortir de l'esclavage et vous emmener dans un pays où coule le lait et le miel. Pour que ce plan s'accomplisse, il y avait le désert entre les deux. Et qu'est-ce qui va se passer? Ce peuple va se rebeller contre Dieu. Il va contester Dieu. Il ne va pas voir le pays promis, le résultat. Ils ne vivaient pas avec la pensée du résultat. Ils n'agissaient pas comme s'ils étaient déjà dans Canaan, mais ils agissaient comme s'il fallait faire retour en arrière, revenir en Égypte. Et ces gens-là ont lamentablement échoué. Dieu les a laissés dans le désert pendant 40 ans, alors qu'ils avaient eux-mêmes la propre clé pour entrer dans le pays
Canaan.
Jésus a dit à Pierre, qui lui donnait les clés du
royaume,
tu sais que tu as les clés du royaume? Est-ce que tu rentrerais dans ta voiture sans les clés? Non. Tu as oublié tes clés?
Oh,
où est-ce que j'ai mis mes clés? Je ne peux pas rentrer dans ma voiture. Ici, je vous parle de quelque chose de très naturel. Tu vas dire, mais non, ce n'est pas possible, je ne peux pas rentrer dans ma voiture.
Et
la première chose que tu vas faire, tu vas mettre toute ton énergie, tu vas te concentrer pour quoi faire? Pour retrouver tes clés. Parce que tu sais que c'est cette clé-là qui va te permettre d'entrer dans ta voiture, de démarrer et de partir. Mais
il n'y
a pas moyen. Les chrétiens sont là devant leur voiture, entre guillemets, c'est l'image que je donne. Oh Seigneur, ouvre la voiture. Oh Seigneur, ouvre la voiture. Seigneur, tu sais, je suis dehors, il fait chaud.
Je souffre
maintenant. Le fardeau est lourd. Ouvre la voiture au nom de Jésus,
Seigneur.
Et Dieu te dira, prends les clés. Va chercher les clés. C'est comme ça que ça se passe. Arrêtez de compliquer les choses. Arrêtez de dire que Dieu doit tout faire et que vous êtes là en train simplement de dire, Seigneur, ouvre la voiture. Il fait chaud, Seigneur, le fardeau est lourd. Tu t'en sortiras jamais, mon frère, ma soeur. Tu pourras passer toutes les années que tu veux dans le Seigneur. Tu ne vivras jamais épanoui dans la grâce, dans le repos de Dieu. y a un repos pour le peuple de Dieu. Si ce matin tu dis je suis fatigué, c'est que tu as tort, c'est que tu n'as pas compris quelque chose. On va dire au verset 1. Craignons donc, à chapitre 4, tant que la promesse d'entrer dans son repos subsiste, que personne parmi vous ne pense être venu trop tard. Car la bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole, regardez bien, la parole qu'ils avaient écoutée ne leur servit de rien, car ceux qui l'entendirent ne la reçurent pas avec foi. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos dont il est dit, j'ai donc juré dans ma colère, ils n'entreront certainement pas dans mon repos. Les œuvres de Dieu étaient cependant faites depuis la fondation du monde, car il a dit quelque part à propos du septième jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le septième jour. Et de nouveau dans ce passage, ils n'entreront certainement pas dans mon repos. Ainsi, puisqu'il est réservé à certains d'y entrer, et que ceux qui n'avaient pas reçu les premiers cette bonne nouvelle n'y entrèrent pas à cause de quoi ? Leur incrédulité. Dieu fixe un jour nouveau. Aujourd'hui, en disant... Bien longtemps après, par la bouche de David, comme il l'a été dit plus tôt, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas dans vos cœurs. En effet, si Josué leur avait donné le repos, Dieu ne leur parlait pas après cela d'un autre jour. Il reste donc un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose aussi de ses œuvres, comme Dieu se repose des siennes. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos-là, afin que personne ne tombe en suivant le même exemple de désobéissance. Car la parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'aucune épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à diviser l'âme de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Ici, on voit clairement dans cette parole que Dieu a un repos pour son peuple. Si tu es dans un combat, regarde bien où est-ce que tu te situes. Est-ce que tu te situes du côté de la victime à qui Dieu ne répond pas à sa prière?
Et
il y a beaucoup de chrétiens qui sont forts pour jouer les victimes. Ils disent souvent, ah, vraiment. Je prie, mais Seigneur, finalement, pourquoi tu ne réponds pas? Agis sur la parole. Entre dans le repos de ton Seigneur. Arrête de te faire porter toi-même des fardeaux que tu n'as pas apportés. Libère-toi de cela. Vie cool dans la foi. Rentre dans la joie. Dans le repos. Dans la paix et refuse de porter des fardeaux. C'est pas ton rôle. Si Dieu t'amène dans quelque chose de particulier, une bataille particulière, gère-la avec les lois de la foi. Ne gère pas ces batailles avec une sorte d'inquiétude, de faux fardeaux, de toutes sortes de trucs que tu n'as pas apporté. Mais apprends à te décharger et à vivre complètement comme si la parole de Dieu était déjà accomplie en ta faveur.
Rentre
dans ce repos. Les Israélites ont échoué, ils étaient incrédules, et quand on est incrédule, qu'est-ce qu'on fait? On agit sur notre incrédulité. Faux fardeau, inquiétude, parole négative, nuages bien noirs autour de nous, aucun renouvellement au niveau de notre vie spirituelle, et au bout d'un moment on s'affaiblit. C'est une méthode très simple de l'ennemi. Par contre, si tu apprends, tu peux simplement comprendre que tu as à agir sur la parole. Tu fermes tes pensées à tout ce qui va contraire à la parole. Tu agis sur cette parole comme si tu étais déjà dans le résultat. Tu fais ça, tu vas voir des actions divines incroyables dans ta vie. Tu vas voir le monde invisible de Dieu agir d'une façon très spéciale pour ta vie. Parce que tu es quelqu'un de spécial à ses yeux.
Donc,
il a quelque chose de spécial pour toi. Vous savez, chaque personne qui est ici est spéciale aux yeux de Dieu. Et le Seigneur a des choses particulières pour chacun d'entre nous. Pour que nous puissions nous épanouir d'une façon spéciale. Dieu a en réserve des choses pour Steve qu'il n'a pas en réserve pour moi et vice versa. Et chacun d'entre nous, c'est la même chose. Mais tellement de vies sont gâchées. Sont médiocres
sont
chargés de choses qui ne devraient pas être le cas.
Dieu
nous appelle à vivre dans son repos.
Et
au moment où la bataille fait rage,
tu es
fort.
Parce
que tu t'es fortifié. Dégage-toi de ce qui est en train de bouffer ta vie spirituelle. Commence à dire non, Seigneur, moi maintenant je ne veux plus prendre ces choses. Je t'ai remis ça. Je marche dans la foi. Je marche dans mon résultat. Et je te remercie, Seigneur. Et je verrai ces choses avec mes propres yeux. Un dernier obstacle que nous voyons souvent au niveau de la foi, c'est bien sûr une confession négative. Une confession négative minera votre foi. Bloquera complètement votre foi. Proverbe 18-21 que nous connaissons bien nous parle du fruit de nos paroles. Vous pouvez avoir la foi dans votre cœur si vous avez le malheur avec votre bouche de parler négativement sur votre situation. Je vais vous dire une chose, il ne se passera rien. Vous allez bloquer complètement l'action de Dieu. La Bible nous dit, Proverbe 18-21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Celui qui l'aime en mangera les fruits. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont sincères, honnêtes, braves, qui ont fait une expérience réelle avec le Seigneur de salut, qui bloquent leur vie spirituelle par une confession négative. Vous savez, parfois, il faut vraiment qu'on regarde ce qui sort de notre bouche. Moi, les moments où je vois le plus Dieu agir, c'est quand je commence à veiller sérieusement sur ma bouche et à parler
les choses
de Dieu. Il y a une puissance. Une puissance. Et ce n'est pas quelque chose qui est facile à faire. C'est un exercice, une croissance qui demande des années. Parce que nous avons été bourrés d'informations négatives.
Oui, ok.
Ce monde nous bombarde d'informations négatives. Constamment, nous pouvons voir des circonstances adverses à ce que nous voulons voir se réaliser dans notre vie.
Mais
si tu as le malheur avec ta bouche, alors que tu entends la parole de la foi, de confesser le négatif, tu vas tout détruire. La Bible nous montre que nos paroles sont comme des semences. Il y a des gens aussi qui ne comprennent pas cela pour être sauvés. Si ce matin vous n'êtes pas sauvé, vous n'êtes pas capable de parler d'une expérience personnelle avec Jésus-Christ, il va falloir que vous appreniez à libérer votre foi. Si vous croyez que Jésus est Dieu le Fils,
s'il
est mort pour vos péchés personnellement,
qu'il
est ressuscité le troisième jour, il faut le recevoir, et on le reçoit par la foi en confessant. C'est ce que la Bible nous montre dans Romains 10. Romains 10, versets 9 et 10. La confession crée avec la foi la nouvelle naissance. La confession de ta foi crée la nouvelle naissance, crée le salut. Il est dit au verset 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur, dans ton esprit que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Ici, on voit clairement que la confession a un rôle important à jouer quand une personne doit être sauvée. Si une personne ne veut pas confesser Jésus-Christ, elle ne peut pas être sauvée. Parce que la foi avec la confession crée le salut. Crée le salut. La foi plus la confession. Beaucoup de chrétiens vivent dans la défaite parce qu'ils n'arrêtent pas de bombarder leur vie avec des paroles négatives. Avec des paroles négatives. Faites bien attention à vos paroles. Le j'y arriverai jamais. Le je ne peux pas. Lis votre vie. Faites attention à cela. Le c'est vrai, mais. Faites attention à cela. C'est le langage de l'incrédule. J'aimerais bien, mais. Je voudrais bien que Dieu fasse ceci, mais. Je prie pourtant, je ne vois pas. Fais attention à ce que tu dis. À ce que tu dis sur ta vie. Fais attention à ce que tu dis sur ta vie. Ce que tu dis, c'est une semence. C'est ce que la Bible nous montre dans le proverbe. Si tu t'environnes de paroles négatives, d'abord, c'est le fruit de ce que tu as d'abord pensé. Il y a tellement de chrétiens qui glorifient le diabe avec leurs paroles. Si dans une situation, tu parles la défaite, mais bien sûr, tu pries. Il faut bien prier, on est chrétien. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Avec ta bouche, tu es en train de dire finalement, je prie, mais quand je regarde où j'en suis, je vois que le diable est plus fort que Dieu. Yo. Vous imaginez ça? C'est ce que nous sommes en train de faire, frères et sœurs. Lorsque nous parlons l'opposé de ce que la parole de Dieu déclare et ce que tu as prié, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de dire, le diable est plus fort que mon Seigneur. Hein. Et les gens ne comprennent pas qu'ils sont en train de se lier eux-mêmes. Ils se bloquent eux-mêmes. Ils empêchent leur foi d'agir. Ils bousillent leur foi, ils anesthésient leur foi. C'est un obstacle qui est terrible. Tellement de chrétiens vivent dans la défaite. Mais c'est très simple. Écoutez parler les gens et vous saurez exactement où ils en sont avec le Seigneur. Des fois, on discute 3 minutes avec des chrétiens. Ils ont déjà sur toute leur vie. Ils ont craché sur toute leur vie. Et j'ai tel problème, et j'ai ceci, et j'ai cela, et ça, ça va pas. Mais en fait, pasteur, rien ne va. Mon cher ami, si rien ne va, il va que tu te poses des questions, pourquoi rien ne va? Mais je comprends pas, pasteur. Pourtant, je prie, mais rien ne va. Parce ce qui va pas, c'est toi. Change déjà ce petit morceau-là. Tu vois, vous voyez, parfois ça serait bien s'il y avait des magasins où on pouvait racheter des langues. Ça marcherait mieux que les magasins de téléphonie mobile. On ferait plus d'affaires d'ailleurs. Il faudrait importer ça de Dubaï. Hein. Il faudrait leur demander s'il y a Dubaï, ils ne fabriquent pas ça. C'est incroyable. C'est incroyable de voir les chrétiens parler. Ils sont en train de parler défaite, problème, défaite, problème. Mais ils prient.
Ariko.
Et on ne sait jamais. Peut-être que Dieu un jour va se réveiller et va dire, Oh, ma fille, aujourd'hui j'ai dans mon programme de t'exaucer. Vous allez mourir avant que Dieu vous dise ça.
Et
là, mourir de vieillesse.
Hein.
Dieu ne fonctionne pas comme ça.
Dieu
nous a donné des lois
spirituelles.
Nous sommes dans un monde, et c'est clair, la Bible le dit. La Bible dit que Satan, c'est le dieu de ce monde, des systèmes de ce monde. Si tu pratiques les systèmes de ce monde, tu auras les fruits des systèmes de ce monde. Injustice,
ukurenganwa,
escroquerie,
ukwibwa,
toutes sortes de choses qui vont à l'encontre, malheur, misère,
ibibi, ubgoro,
maladie,
ibigwara,
pauvreté,
ubukene buku,
manque de paix,
atamahoro
tristesse, enfin tout.
Kubabara, gushishwa,
vous savez, le diable il donne tout ce qui est négatif, il le donne en paquet d'ailleurs.
Satan, ibibi byose biviwe kandi abitanga ari byinshi arabigwiza.
Si tu veux que ces choses changent, tu dois apprendre à changer ton langage
et
avoir un langage de victoire. Un langage où tu n'acceptes pas l'inacceptable.
Où
tu dis non, ça je ne suis pas d'accord là-dessus. Les circonstances c'est peut-être ça, mais la parole de mon Seigneur dit ça. Je n'accepte pas cela. Je parle le contraire.
Ah,
vous savez, il y a des fois des choses comme ça qu'on peut voir. C'est vraiment intéressant.
Vous
sentez des fois des pressions autour de vous. Et alors l'ennemi essaye de vous montrer que c'est foutu. Des fois c'est marrant. Là quand vous avez la foi dans le cœur, vous allez voir les plus belles victoires se manifester.
Si
vous levez et que vous dites non, je n'accepte pas ça, Satan, je ne parlerai pas ton langage, mais je parle le langage de la parole et je le déclare sur cette situation. Je vous garantis, quand vous êtes au bord, vous savez, où tout a l'air de s'écrouler autour de vous,
que
vous commencez à marcher dans ce principe, là vous aurez cette parole que l'ennemi est arrivé par un chemin, mais il va fuir par sept chemins. Parce que vous parlez la parole de Dieu. Et là, le diable est déstabilisé.
Satan
est
choqué.
Chez lui, ça ne marche pas.
Il part
obligatoirement.
Parce
qu'il voit que vous êtes ferme. Parce qu'avec votre bouche, vous le tenez en échec. Ne laissez pas l'ennemi vous tenir en échec, mais apprenez à tenir en échec vos circonstances. J'ai pas dit que c'était facile, parce qu'on a tellement été habitué à vivre dans le naturel. Je crois ce que je vois. Je crois ce que je vois. Si je vois problème, malheur, truc et bidule, alors je crois ça et je parle ça. Misérable. Ça, c'est le monde qui fait ça. Et toi, tu dois utiliser les principes de la parole. Si tu ne changes pas ta confession, obligatoirement, tu marcheras dans la défaite. Tu peux être un brave chrétien.
Chrétien,
ça ne marchera pas. Tu ne peux pas voir Dieu si tu confesses négativement. Ça, c'est un principe important, c'est un principe fondamental. Tu ne pourras jamais voir Dieu. Et tu vas, au contraire, quand tu commences à confesser négativement, regardez ce que Job 3 nous dit. Job 3, verset 25. Ça, c'est quelque chose que vous devez bien comprendre. Si tu commences à parler des choses, tu sèmes une semence quelque part. Bonne ou mauvaise. Et Job disait la chose suivante. Ce qui me fait peur, c'est ce qui m'arrive. Verset
25.
Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Donc ce que tu crains, c'est ce qui va t'arriver. Quand on redoute quelque chose, c'est, vous savez, il y a une ambiance qui est là, on se dit, apparemment tout tourne mal, c'est clair, je suis foutu. Entre guillemets, tu attends que la mauvaise nouvelle tombe.
Ah,
j'en étais sûr.
Ah, oui.
Si t'en étais sûr,
qu'il
soit fait selon ta foi, mon frère. T'en étais bien sûr, ben, c'est sûr que ça t'est arrivé. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni calme, ni tranquillité, ni repos, c'est l'agitation qui survient. Fais attention à ce que tu dis. Sur ta vie, mon frère, ma
soeur.
Si tu parles des choses négatives, tu attires le monde négatif. Tu attires les oppressions spirituelles. Tu attires les choses bizarres. Tu attires de quoi mettre, donner à l'ennemi l'occasion de te faire chuter. Satan est un voleur.
Satan est
un destructeur. Rappelez-vous de cela. Il est là pour dérober, pour détruire, pour égorger. Avec ta bouche, tu peux le dominer.
Ou
tout le monde dit ou te faire dominer. C'est soit l'un, soit l'autre. C'est soit toi qui vas le dominer, ou soit toi qui vas te faire dominer. Donc tu dois faire extrêmement attention à ce qui sort de ta bouche. Ce qui sort de ta bouche, c'est le reflet de ce qu'il y a dans ta tête. Si dans ta tête, il y a des pensées négatives, et nous sommes tous tenter à des moments à avoir des pensées négatives. Avoir les scénarios de la vie les plus catastrophiques quand nous sommes dans des difficultés. Ça, c'est humain et normal et naturel. Maintenant, si tu médites sur ces choses et que tu les parles, et que tu es sûr qu'elles vont arriver, qu'il soit fait selon ta foi. C'est exactement ce qui va t'arriver. C'est pour ça que tu peux éviter. En voyant des circonstances les pires être autour de toi, alors que tu es un enfant du roi des rois, alors que tu es censé dominer, régner dans cette vie, alors que tu dois être quelqu'un qui glorifie ton Seigneur. Vous savez, souvent les gens disent: oh Seigneur, glorifie-toi dans ma vie. C'est bien. T'as une part à jouer. Non, Seigneur, moi j'avais pas compris ça comme ça. Moi je pensais qu'il y avait juste à dire: Seigneur, glorifie-toi dans ma vie, et tu allais te glorifier dans ma vie. Non, tu as une part à jouer. Mais pas n'importe quelle part. Si tu parles mal négativement sur tes situations, tu donnes à l'ennemi un terrain sur lequel il peut travailler. Et si tu lui donnes un terrain sur lequel il peut travailler, il va travailler. Mauvaise nouvelle. Donc si tu veux l'empêcher de travailler sur ton terrain problématique, il va falloir que tu surveilles et que tu ailles dans le magasin de Dieu, avenue de la mission,
acheter
une langue. Une langue toute neuve, avec un bel écran, trois dimensions, qui reflétera la parole de Dieu. Amen.
Amen.
Faisons bien attention. Ce que tu dis là, avec ta bouche, c'est ce que tu auras comme fruit. Quand tu sèmes une graine, si c'est la parole, tu la parles. Et parfois ça demande du temps, je ne dis pas le contraire. C'est parfois on s'impatiente. Parfois on voudrait voir un résultat instantané. Et ça n'arrive pas instantanément. Alors ça nous dérange. Continue à parler. Mais arrête de vouloir glorifier le diable. Confesse que tu es malade. Continue à confesser. Tu verras que ça va s'ancrer encore plus dans ta vie. Et qu'est-ce qui se passe? Tu es en train de donner la domination à l'ennemi. C'est un principe spirituel que je vous enseigne ici. On va se lever et on va prier ensemble.
Et
je demande à chaque personne de rester ici dans cette salle tant que nous avons l'appel pour ceux qui ne sont pas encore sauvés. C'est un respect vis-à-vis de chacun ici. D'accord ? Que chacun se lève ici, s'il vous plaît, tout en haut.
Enseignement.com.
Enseignement.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignement.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignement.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.